cette date-là ici, à Vic, c'est la dernière, ça ressemble à ton épouse à Dieu. Est-ce que ça a une conscience particulière? Est-ce qu'il y a de la nostalgie, de la joie ou des sentiments?
Es tu gira de despedida, entonces va a ser uno de los últimos conciertos aquí en Vic. Entonces quieres saber si te da una nostalgia mirando atrás o si tiene mucha emoción, mucha alegría.
Porque yo quiero mucho a ustedes, yo los quiero mucho. Yo tengo que ir, termino, pero no me voy a ir tranquilo. Ahora solo voy a tener que quedarme.
Bien sûr, il y a une certaine nostalgie parce qu'il aime Vic, il aime son public. Et bien sûr, il nous aime, il voudrait rester avec nous. Mais il y a un moment où on ne peut plus et donc il y a toujours un peu de nostalgie et d'émotion surtout à quitter le public.
Le titre de créateur et de roi du mambo, est-ce que ce n'est pas quelque chose de trop dur à porter?
Si, a ti te dicen el rey del mambo. Entonces, si es un título que te dieron que no es muy, muy difícil para traerlo.
Lo voy a explicar. El año 1937, mi hermano, fallecido ya, y yo inventamos el mambo.
Alors, en 1937, son frère et lui-même, son frère qui est déjà décédé, ils ont ensemble créer le mambo.
Pero el año 46 he declarado triunfo con mi mambo en México.
Mais en 1945, Pérez Prado va lui triompher avec le mambo au Mexique, à Mexico.
Entonces cambia el sistema de orquesta de mambo. En lugar de hacerlo con cuerdas y flauta y ritmo.
Et pour faire triompher le mambo à la Pérez Prado, il a changé le type d'orchestre, c'est-à-dire que jusque-là, le mambo se faisait avec les flûtes, les violons, et au lieu des cordes, Pérez Prado, lui, a mis des cuivres avec des trombones, des saxophones, un orchestre vraiment de cuivre essentiellement. Et donc c'est en changeant cette orchestration qu'il a changé en fait le mambo.
Donc, une occasion, Pérez Prado estaba de gira, fue a Madrid. En ese momento yo estaba en Madrid. Pero Pérez Prado se enfermó y contaba esto. Entonces preguntó: ¿quién puede hacer aquí este trabajo? Porque este trabajo lo puse a jugar. Le digo aquí un señor que se llama Casado, dice, ¿dónde va? Entonces hablamos una noche y fuimos, hicimos dos semanas en Radio Madrid. Eso fue en el año 1962.
Alors en 1962, il s'est passé quelque chose, c'est que Pérez Prado était à Madrid avec son orchestre et le contrebassiste de Pérez Prado est tombé malade. Et donc il fallait pour les concerts chercher un contrebassiste et qui va être ça. Et lui, à cette époque avec son frère, ils ont travaillé pendant 15 jours à Madrid.
Entonces, desde esa época, yo quería mucho Pérez Prado, porque hace conocer el mambo en el mundo entero fue Pérez Prado, fue internacionalizado.
Et depuis cette époque où ils ont pu même travailler ensemble, il a beaucoup de respect pour Pérez Prado parce que celui qui a fait connaître le mambo dans le monde entier, c'est effectivement Pérez Prado avec son orchestration, mais il reste quand même le père, lui, du mambo. Et Pérez Prado et lui ont toujours été d'excellents amis. Sans aucun problème.
Dans les musiques latines, il y a un exemple de beaucoup de monstres sacrés qui ont à peu près son âge. Est-ce que la salsa des musiques latines, c'est l'élixir de jouvence d'aujourd'hui?
Entonces, en la música latina hay unos grandes nombres como tú, por ejemplo, se dice en francés unos monstruos de la música. Él quiere saber si, bueno, hoy en día para ti la salsa representa un seguimiento de eso.
Bueno, lo que pasa es que la palabra salsa se emplea. Y vamos a decir comerciando, pero que en realidad es la música cubana.
Alors, la salsa, c'est un mot, une étiquette qu'on a mis, mais en réalité, la salsa, c'est de la musique cubaine.
Parce que le bolero, la guaracha, la rumba, la danzón, le bongo, tout, c'est cubain.
Donc, les différents genres de la musique cubaine, la guaracha, le son, le mambo, la rumba, le guaguancó, tout ça, ce sont en fait des rythmes qui sont des rythmes cubains.
C'est la parole que la gente comprende, hay quien no sabe, c'est fulano es salsero. La salsa es la salsa de tomate, como decía Tito Puente.
Alors, les gens qui ne connaissent pas, ils disent, ah, un tel c'est un salsero, mais en fait, l'unique salsa qui existe, c'est la sauce de tomate.
Et est-ce que justement le fait de pratiquer ces musiques-là, de jouer ces musiques-là, c'est ça qui fait la longévité et la forme?
Pero es el hecho de tocar la música latina, todos los géneros de la música cubana, si es eso que te da tanta vida y tanta energía en la música.
El problema, por ejemplo, es el puertorriqueño. Nosotros agradecemos mucho que haya mantenido la música cubana todo el tiempo. Por una época, la música cubana no estaba para abajo. Entonces el puertorriqueño no dejó de tocarla y no lo dejó. Entonces, en comparación con Celia Cruz, Tito Puente, Tito Rodríguez, Vicentico Valdés, Miguelito Valdés, pública por todo el mundo, puertorriqueño y cubano, lo tuvieron la música cubana en ese momento.
Il y a une chose très importante, c'est qu'à un moment, la musique cubaine a disparu un peu de la scène internationale, bon, après la Révolution, je rajoute ça, et eux, ils ont un grand respect, ils remercient énormément les Portoricains, parce qu'à l'époque où on n'entendait plus de musique cubaine parce qu'elle était enfermée dans Cuba, les Portoricains ont repris tout l'héritage de la musique cubaine et ce sont eux qui ont continué à travailler et à maintenir la musique cubaine avec tous les grands noms qu'il a cités, Tito Rodríguez, Tito Puente, Celia Cruz, Bobby Capó et voilà, alguien más. Tous ensemble, ils ont aidé à maintenir cette musique et vraiment les Cubains remercient le peuple portoricain et les musiciens portoricains d'avoir su, à New York, continuer à maintenir cette musique.
Je pense que ce sera la dernière question. À New York, il a reçu récemment, je crois, un prix du Blue Note, une boîte de jazz très réputée. Miles Davis a eu ce prix avec que des grands noms du jazz. C'est la concentration de carrière, ça a dû lui plaire.
Il dit que ultimement, en Estados Unidos, en New York, recibiste un premio, dice que del Blue Note. Que es el premio Blue Notes, que bueno, grande del jazz como Miles Davis, han recibido ese premio. ¿Para ti es como una consagración también de tu carrera?
Yo tengo 5 años, un doctorado en Boston. Entonces para mí tengo una estrella en Hollywood. Entonces, claro, yo tengo una.
Donc, il a eu un grand nombre de prix dans la musique. Il a donc 5 prix Grammy. Il a son étoile sur l'avenue de Hollywood. Et bon, depuis 1995, il a reçu un prix. Là, il n'a pas. Il y a un prix que j'ai oublié. ¿Cuál es lo que se me escapó? Yo hablé de los Grammy Latino, de la estrella en Hollywood, y hablaste de otra cosa.
Doctorado.
Ah. Et il a été nommé docteur honoris causa de l'Université de Boston. Et c'était à l'occasion de ses 81 ans de carrière musicale.
Eso es, y empecé en 1926.
Il a commencé à jouer en 1926.
Y ese cine silente.
C'était à l'époque du cinéma muet. et où les musiciens, donc, entre, quand on changeait les bobines, les musiciens jouaient.
Teníamos en batería. Tenía que mirar los efectos, la película de tiros. Entonces mira una botella de ron. Y voy un momento que no estaba allá. El cielo. Cuando va a disparar, el revólver solamente tiene 6 balas. Y él tiraba 80. A ver si se lo contestaba. Le decía, pues, oiga, el revólver solamente tiene 6 balas y usted ha tirado 80. Eso no es una ametralladora. En ese caso.
Ça c'est une anecdote. Donc à l'époque du cinéma muet, ils avaient, donc ils étaient là, ils regardaient le cinéma et ils faisaient les effets avec une batterie. Et donc, et eux, ils avaient toujours une bouteille de rhum à côté. Donc ils buvaient un cul de rhum, ils buvaient 2 coups de rhum. Et au bout d'un moment, ils étaient partis dans les nuages. Et alors quand il y avait les films où on tirait, donc un revolver n'a que 6 coups. Donc normalement, ils n'auraient pas dû jouer. Et eux, ils tiraient avec. Et on lui disait, mais vous avez tiré 80 coups, ça ne marche pas du tout. Quand il avait 12 ans, il est rentré à l'orchestre philharmonique de La Havane, où il est resté 30 ans.
Soy Enrique Bolívar. Hice la descarga en el año 1957.
Alors, il y a eu le cha-cha-cha qui, lui, est Enrique Rorín, qui est un grand violoniste qui lui a inventé le cha-cha-cha. Et lui, alors en 1957, il a créé ce qu'on appelle les descargas. Les descargas, c'est-à-dire l'improvisation entre musiciens.
Une chose, en ce moment, pudiéramos decir, un acuerdo no formal. Llegó un grupo de músicos a 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana tocando lo que hicimos tocar. Entonces yo le dije a los músicos, cuando terminemos, vamos a estar una semana fuera de aquí porque nos van a matar con todo el día. Eso yo decía, es una música de grupo, pero no lo es, a la gente le gustó después.
Donc le principe des descargas, c'était que les musiciens se réunissaient à 4 heures du matin, un groupe de musiciens de façon complètement informelle, ils commençaient à improviser ensemble tout ce qui leur passait absolument par la tête, et donc ça jusqu'à 9 heures du matin, ils jouaient toute la nuit. Et alors lui, au bout d'un moment qu'il faisait ça, il disait, mais attendez, ça c'est une musique de fou, il faut qu'on se calme, il faut qu'on reste pendant une semaine tranquille. Et en fait, ils ont été les premiers surpris, parce qu'après, finalement, eh bien, les gens commençaient à aimer ça et apprécier la descarga, et c'est devenu un genre musical à part entière.
C'est la toute dernière, il y en a une autre, 80 ans de carrière, ça marche un peu près, vraiment, c'est fabuleux. S'il y avait un souvenir à garder, un lieu, quelque chose, une terre, ça serait lequel?
Más de 80 años de carrera que tú tienes, si en tu memoria tiene un lugar o una escena o una cosa, un concierto que tienes en la memoria, ¿qué es lo que tú retienes?
Cuando
debuté
con la Filarmónica, tenía 12 años, eso fue un año profesional, porque era el peor, ya había tocado música popular. Entonces, en esa orquesta diferente, que vestirse de frac. Me dio, me pasé un pingüino. Entonces, yo tocaba conciertos, ópera, suena. Después de eso, me llegué a un baile. El baile tenía que quitarme la ropa de pingüino. Y el ambiente era diferente. El ambiente clásico, no me estaba mareado, pero en el ambiente popular no. Yo llegué ahí y me contaba gente gritando, ¡ay! Me tomaba un piso, porque era todo, ¿no? Yo venía así, yo salía así.
Donc en fait, le souvenir le plus fort, c'est l'époque de ses 12 ans, quand il est entré à l'orchestre philharmonique, Déjà avant, il jouait la musique populaire. Mais quand il est rentré, il était petit. Et alors, ils étaient en frac, parce que l'orchestre philharmonique, c'était la grande étiquette. Et donc, il paraissait, il avait l'air d'un pingouin. Et donc, ensuite, ce qui se passait, c'est qu'il jouait pour les concerts du philharmonique. Et en sortant, il retournait jouer dans les bals populaires. Et donc, le problème, c'était le changement d'ambiance. Il ne pouvait pas arriver avec son frac dans l'orchestre populaire, parce que là, les gens se fichaient d'eux, ce n'était pas du tout la même ambiance. L'orchestre philharmonique, c'était les gens respectueux, l'étiquette, les riches et tout. Et après, dans le bal populaire, c'était tout le monde. Et donc, il disait, il arrivait d'abord dans un endroit, il était comme ça, c'est-à-dire très digne, très petit garçon, très sage. Et quand il arrivait dehors, les gens... Et donc déjà, ça c'est son souvenir, le plus grand souvenir, ce changement d'ambiance à cette époque.
Et
dans toute sa carrière, donc, il a raconté ce passage, que c'est vraiment le souvenir le plus fort qu'il avait quand il passait d'un état à un autre et qu'il dansait, il aimait danser, faire la fête et tout ça. Et il a joué dans 354 orchestres dans toute sa carrière musicale.
Una vez, yo soy compositor, yo hice una carrera de 1500
compositores. Cachao es compositor y il a plus de 1500 compositions à son actif.
Bueno, pero entonces un día yo estoy sentado en mi casa en la radio tocar una música. Y yo, entonces yo, bueno, que suena bien eso. Le da mi llamada a ver quién es, no conocía nada. ¿Con quién es? Cachao, yo. Ahí me pasé pena. Ya no me acordaba que eso era mío. Yo pregunté que de quién era eso. En el medio de Cachao, yo, si yo era Cachao, soy yo, pero eso te. Pero ahí mismo. No dije más nada porque me hubiera matado porque, bueno, no se conoce su música.
Donc un jour il était assis chez lui à la maison, il écoutait la radio et il entend un morceau à la radio et il trouve que c'est un morceau qui sonne super bien. Et il demande mais qui est-ce qui a composé ça? Et les personnes qui étaient avec lui disent Cachao. Et lui, il ne se souvenait même plus que c'était lui le compositeur. Donc il est resté complètement muet, il avait honte parce que c'était lui-même le compositeur et il n'était même pas fichu de retrouver que c'était ses compositions.
Así es. Hay un artista francés, Maurice Chevalier.
Ah, il a travaillé avec Maurice Chevalier en France.
Edith Piaf.
Y dice que sí, con Frank Sinatra también.
Sinatra, Sammy Davis, sí, el actor Tony Bennett. Sí, también con. No me tomaba mucho. Yo me tomaba.
Y Madonna, ¿no? Madonna no.
Sinatra, Sammy Davis, el otro,
Dean Martin.
Dean Martin.
Ah, Dean Martin.
Donc il a travaillé avec Dean Martin à Las Vegas, dans le Nevada. Il disait que Dean Martin, c'était la seule chose qui se souvenait, c'est parce qu'un artiste. Il a joué avec tous les types d'orchestres, donc il a joué avec des mariachis. Et alors, ce qu'il racontait avec les mariachis, c'est qu'il fallait jouer avec le grand chapeau. Et donc, il n'en pouvait plus parce qu'il y avait les gouttes de sueur et il ne pouvait rien dire parce que ça dégoulinait. Il fallait qu'il ait l'air avec le grand sourire, toujours garder le sourire. Et l'autre, c'était avec les gauchos, comme il dit, c'est-à-dire qu'il jouait du tango argentin.